Alors, ouvrez vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Et nous allons lire les premiers 17 versets. Alors, Matthieu 21. Alors, dans vos Bibles, ça peut être entrée triomphale de Jésus, ça peut être entrée de Jésus à Jérusalem, ça peut être plusieurs choses. Ce qui est certain, c'est que il s'agit bien de l'entrée de Jésus. Il vient depuis la Galilée et il se présente une dernière fois. Jésus est toujours descendu à Jérusalem pour chaque célébration de la Pâque. Et donc, dans son ministère terrestre, bon, déjà dans son enfance, il est descendu, la première fois à l'âge de 12 ans. Mais dans son ministère terrestre, il est descendu à Jérusalem chaque fois. Et ici, ça va être la dernière fois, et c'est durant cette fête de Pâques qu'il sera crucifié. En fait, Jésus se présente encore une fois au peuple d'Israël, dire « Je suis le Messie que vous attendez ». Et donc, il réaffirme, il appelle à nouveau ce peuple à se repentir et à le recevoir. Donc je lis à partir du verset 1. Lorsqu'il, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Alors juste pour vous donner deux mots sur la géographie de Jérusalem. Jérusalem est sur un mont, et le mont des Oliviers est encore plus haut. Et donc en général, les gens quand ils arrivent sur le mont des Oliviers, et puis là, il domine sur le temple et sur la ville. Et bon, c'est à ce moment-là que Jésus a pleuré, hein, il voyait toute la ville devant lui. Donc, c'est juste avant d'arriver au sommet là, que Jésus envoie deux disciples pour aller chercher cet anneau. Alors, il dit, voilà, vous trouverez cet anneau, vous allez-y, vous trouverez l'ânesse et l'anneau attaché à côté. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui direz seulement, le Seigneur en a besoin, et puis ils vous laisseront partir. Verset 4. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, Sion c'est un autre nom de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée !» Verset 12 « Jésus entra dans le temple de Dieu. » Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs, les scribes, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» et lui dire, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, » répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Mon verset clé, c'est au verset 12, il nous dit que Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Voilà l'intention qu'il avait, c'est d'aller pas seulement à Jérusalem, mais entrer jusque dans le temple de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que, et il le savait plus que nous, hein, c'est que il pose la question au verset 11, il dit, mais qui est celui-ci? C'est qui? Pourtant, ça fait 3 ans et demi qu'il circule tout le territoire, qu'il guérit les malades, qu'il rend la vue aux aveugles, qu'il rend l'ouïe aux sourds, qu'il rend la vie aux morts, qu'il délivre les possédés. Ça fait 3 ans et demi. Les récits ne manquent pas. L'apôtre Jean nous dit dans son évangile, a dit, les livres, tous les livres de l'époque, en tous les cas, ne suffiraient pas pour dire tous les miracles qu'il a fait. Et pourtant, ces gens à Jérusalem disent, c'est qui ? Il dit, mais c'est Jésus, le prophète de Nazareth. La question, c'est, vous savez, il n'y a pas plus ignorant que celui qui veut faire l'ignorant. En français, on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. En fait, leur problème, c'est qu'ils ne voulaient pas le voir. Ils ne voulaient pas le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Et ce qui est important aussi, et c'est la question qu'on va se poser, c'est qui est-il vraiment et qui est-il pour moi, hein, pour chacun d'entre nous. C'est ça qui importe. Et donc, la première chose que nous voyons ici, c'est le prophète sur l'anneau. Le prophète sur l'anneau, comme ils l'ont appelé, le prophète de Nazareth, sur un anneau. Un anneau pour Jésus. Jésus qui veut se présenter à la foule, qui veut venir présenter leur Messie. Et comment est-ce qu'il vient ? Sur un petit anneau. Bon, c'est mignon, hein, les anneaux. Mais c'est pas quand les empereurs, ils venaient jamais sur un anneau. Ils arrivaient sur un cheval, et pas n'importe lequel. David, quand il voulait déclarer que Salomon était son héritier au trône, eh bien, il l'a mis sur sa mule, mais sur un anneau, non. Mais vous savez, c'est Jésus ne voulait pas de la gloire qui nous vient de notre monture. Hein. On fait un grand cas. Hein, les grands du monde, hein, quand ils se présentent, ils arrivent avec toutes leurs voitures, et puis les plus belles voitures, et puis tout, et puis les uniformes et tout ça. Et tout ça, ça impressionne. En fait, l'homme lui-même, il est pareil que les autres. Hein. Alors on ajoute tout ça. Mais Jésus, il a dit non, moi j'ai pas besoin de tout cela. La gloire, elle est dans ma personne. La gloire ici n'était pas le cheval. C'était le cavalier. Et Jésus se présente assis sur un anneau. Et vous avez remarqué que l'anneau, eh bien, c'est un anneau sur lequel personne ne s'était assis. Normalement, hein, je ne sais pas si vous avez l'expérience avec les poulains ou les anneaux, mais c'est que si le premier qui monte dessus, ben, il faut qu'il sache un peu comment faire, hein, parce qu'il a vite fait de se retrouver par terre. Et même les disciples, ils n'avaient besoin que de l'ânon. Mais les disciples ont dû prendre l'ânesse pour que l'ânon suive. Ils n'avaient aucun pouvoir sur l'ânon. Et Jésus va et il s'assoit dessus, et pas de problème. L'ânon a reconnu son maître. En fait, je ne vais pas développer, mais en fait, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1, eh bien, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme, l'être humain, il l'a créé gérant de notre terre, de la nature, et donc qui avait une autorité même sur les animaux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Vous voyez voler un pigeon, vous ne pouvez pas lui dire « Arrête-toi, pose-toi, je veux prendre ta photo ». Ça ne se fait pas, surtout pas les poissons dans la mer. Mais Jésus, lui, oui, pouvait. Les poissons, il pouvait les rassembler dans la mer et remplir un filet quand il voulait. Jésus a pu s'asseoir sur l'anneau parce que Jésus était sans péché et Jésus était comme Adam était avant que le péché, avant le péché originel. Hein. C'est ainsi que... Jésus était vraiment le second Adam, hein, le vrai. Et Jésus a pu s'asseoir sur cet anneau. Il dominait, l'anneau a reconnu son maître. Et là, nous voyons encore une fois, Jésus n'est pas n'importe qui. Hein, en tant qu'homme, il n'est pas homme de parmi les hommes, mais il est l'homme tel que Dieu l'avait conçu à l'origine. Hein, et tout ça, ça nous donne une idée de ce que Dieu aimerait reconstituer. Hein, et en agissant dans le monde et en rassemblant tous ceux qui le désirent, eh bien un jour il reconstituera et restaurera ce monde. Et il y a des passages dans la Bible hein, qui parlent de ce moment de paix où même les animaux ne se dévoreront pas l'un l'autre. Hein. Le loup et l'agneau seront ensemble. Mais c'est ce que Dieu veut reconstituer. Le péché nous fait souffrir énormément. Hein, et je sais que parfois, j'y pense, lorsqu'on pense au budget national, combien va pour la sécurité et pour garantir la sécurité des uns et des autres, et combien d'argent va dans toutes les serrures et toutes les... Ça nous coûte terriblement cher le fait que l'homme soit pécheur. Et s'il n'y avait pas tout cela, bien sûr, nos cerveaux pourraient aller pour se développer d'autres choses bien plus utiles. Et je ne peux pas imaginer ce que notre monde serait si on n'avait pas à se dépenser tellement d'énergie sur les guerres et sur de mettre tellement de pression sur les nations pour qu'ils ne fassent pas la guerre et tout ce que cela nous coûte, ce serait extraordinaire. Mais là, Jésus est en train tout naturellement, en train d'être ce que Dieu avait voulu pour nous. Jésus est le maître. Jésus sur l'anneau, sur lequel personne n'avait été assis, eh bien, déjà démontre une puissance qu'aucun homme, les plus puissants hommes, n'ont pas. Deuxièmement, vous voyez au verset 4, il nous dit que Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Il dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse les paroles du prophète. Voici ton roi, vient à toi. » Plein de douceur, monté sur un âne, sur l'anneau, le petit d'une ânesse. C'est tiré de Zacharie, chapitre 9, verset 9, hein, c'est là où se trouve cette prophétie. Et en fait, elle dit, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi. » Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Il dit, voilà Parce que les rois de la terre arrivent toujours avec gloire, avec puissance, avec des armées, avec... Et puis, bien sûr, à cette époque, les Romains, ils arrivaient... Une partie de leur gloire, c'était le nombre de prisonniers qu'ils pouvaient traîner derrière eux. Et c'est comme si, comme ça qu'ils mettaient en valeur leur puissance. Mais Jésus, non, non, c'est pas de cette manière-là. Et Jésus, en fait, il vient sur un anneau. C'était tellement peu caractéristique d'un roi que finalement, c'était un signe sûr que c'était Jésus. Personne, aucun roi, aucun vainqueur ne s'était présenté de cette manière-là. Alors la prophétie de Zacharie qui dit « Tu reconnaîtras ton roi quand il viendra sur un anneau. » C'est là que tu reconnaîtras que c'est lui. Et Jésus est venu et s'est présenté au peuple d'Israël, là à Jérusalem, sur un anneau. Et normalement, ces Juifs qui lisaient constamment, qui nous connaissaient bien l'Ancien Testament, auraient dû reconnaître. Surtout les pharisiens, les scribes et tout cela, eh bien, ils auraient dû reconnaître que c'était bien le signe du roi, hein, du fils de David, hein, c'est ça, c'est comme ça que le peuple a crié aussi, Hosanna, au fils de David, donc le descendant du roi, et donc il devait rétablir. Bien sûr, peut-être c'était une bonne chose que Jésus se soit présenté sur un anneau, parce que comme ça, les Romains, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, oh, quelqu'un qui arrive sur un anneau, on va laisser faire. Mais c'était le signe pour les Juifs, c'était le signe que Jésus était vraiment le Messie promis. Donc on voit l'accomplissement des prophéties. Et puis ensuite, nous voyons cette entrée triomphale de Jésus, Jésus qui arrive et triomphale. La gloire, encore une fois, n'est pas dans la foule, parce que c'était des gens de n'importe la population, hein, avec leurs moutons, avec leur tout ça, ils arrivaient à la Pâque, hein, chacun, ils arrivaient avec ce qu'ils avaient, ils venaient de loin, et c'est cette foule-là de gens ordinaires qui sont en train de crier Hosanna, le tapis rouge. Ah ben, il n'est pas très rouge, hein, parce qu'ils mettaient leurs vêtements. Hein, le vêtement supplémentaire qu'ils avaient, ils mettaient ceux qui n'avaient pas de vêtements supplémentaires, eh ben, ils allaient prendre des branches, ils les posaient par terre. C'était le tapis rouge pour Jésus. Même la selle, c'était pas une belle selle, avec bien décorée, beau cuir et tout. C'était le vêtement d'un disciple qui était là, sur l'anneau. Encore une fois, il ne tirait pas sa gloire de sa présentation, mais ceux qui se disaient et ceux qui se criaient, eh bien, aucun roi ou empereur ou n'avait reçu un tel accueil, parce qu'il disait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et Hosanna, c'est de l'hébreu, hein, et qui signifie sauve maintenant, sauve-nous maintenant. Normalement, ça ne se criait pas quand un roi venait vainqueur. S'il venait vainqueur, c'est que il y avait, ça y est, tout était. Mais là, ce peuple crie Hosanna. Parce que là encore, c'est la prophétie. En fait, ça vient du psaume 118, versets 25 et 26, hein, psaume 118, versets 25 et 26, où il dit « Ô Éternel, accorde le salut hein, ». C'est la traduction de Hosanna. « Accorde le salut, donne le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Voilà, c'est des paroles prophétiques. On sait que ça correspond au Messie. La population qui venait depuis le nord, qui peut-être avait accompagné Jésus, qui le connaissait bien, eh bien, eux reconnaissent le signe et disent Hosanna. On ne dit pas ça à n'importe qui. C'était quand même, ils avaient assez de crainte de Dieu pour ne pas le dire à n'importe qui. Mais ils l'ont dit de Jésus. Et Jésus leur a laissé dire, c'est que ces paroles lui correspondaient. Il a accepté ces paroles. Et alors, on est en train de crier « Hosanna !» Et toute cette gloire. Et puis les gens de Jérusalem disent « Mais c'est qui ? Celui de qui vous criez là ?» Ils disent « C'est le prophète de Nazareth, de chez nous. » Et vous savez, à l'époque, on ne pensait pas grand-chose de Nazareth. Hein, c'était Nathanaël qui dit, quand son frère vient le voir, il dit « Mais nous avons rencontré le Messie. » Il dit « Le Messie ? Oui, oui, il vient de Nazareth. » Il dit « De Nazareth ? » Il dit « Il y a quelque chose de bon qui vient de Nazareth. » Dans Jean chapitre 1. Et puis une fois, les pharisiens disent à Nicodème, il dit « Mais vous savez, il voulait condamner Jésus. » Il a dit « Mais bon, peut-être il faudrait se renseigner sur lui. » Parce que Nicodème, il avait passé quand même une soirée à discuter avec Jésus. Et au fond de son cœur, je crois qu'il était convaincu que Jésus était vraiment le Messie. Mais il n'osait pas le déclarer. C'était un disciple secret. Et alors, et comment est-ce qu'ils ont répondu? Les autres pharisiens ont répondu à Nicodème. Il a dit, mais Jean chapitre 7, verset 57, ils disent, examine, tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Il n'y a pas de prophète de la Galilée. Il n'y en a aucun. C'est sûr qu'on savait que Jésus devait naître à Bethléem. Donc pour eux, le Messie viendrait de Bethléem, pas de Galilée. Et il était réellement né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Et là, finalement, cette foule l'acclame comme leur roi, comme ils le peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Mais Jérusalem va rejeter celui, il y a tous les signes pour dire qu'il était le Messie promis, celui dont a parlé Moïse et celui dont a parlé David et Esaïe et nombreux prophètes. Mais eux, ils attendaient quelqu'un de plus glorieux que cela. Lui, c'est rien, c'est un du peuple. On veut quelqu'un d'intelligent, de glorieux, de puissant. C'est ça qu'ils cherchaient. Et quand ils ne l'ont pas vu, eh bien, ils l'ont rejeté. Vous savez, c'est grave d'avoir des idées préconçues. Et quand on se fait des idées de comment Dieu doit être, quand on se fait des idées de comment Jésus doit faire, si on a des idées préconçues, souvent ça nous aveugle et on ne reconnaît pas la réalité. Une fois, j'avais allé à l'Institut biblique, il y avait un étudiant qui était non-voyant et qui était fiancé. Alors je lui ai dit, mais ta fiancée, et comment est-ce que tu l'as... Parce qu'il n'avait jamais vu. Alors je lui ai dit, dans ta tête, comment tu la vois? Décris-moi là. Et ben, il avait son idée. Après je lui ai dit, écoute, le professeur untel, on l'entend tout le temps à l'école, comment est-ce que tu le... Parce que le professeur, on va pas, un non-voyant, on ne va pas toucher le professeur pour voir... Je lui ai dit, donc, quelle idée tu te fais de lui? Vous savez, même si on est sincère, même si on veut bien, on est complètement à côté. Et sa manière dont il a décrit le professeur, ça ne correspondait pas du tout au professeur. Mais c'est des idées qu'on fait. Et les Juifs, ils étaient là, et ils s'étaient fait une idée sur comment devait être le Messie. Et comme Jésus ne se présentait pas de cette manière-là, ben ils l'ont rejeté. Et nous devons faire attention aussi comment... Et beaucoup rejettent Christ aujourd'hui parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'ils se font. Déjà, les Juifs rejettent le Christ parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient. Et les musulmans qui arrivent 7 siècles plus tard, eh bien, ne reconnaissent pas Christ tel qu'il est présenté dans la Bible. Ils le conçoivent autrement. Et donc on s'en prive. Mais c'est à nous de le découvrir dans la parole de Dieu et de l'accepter tel que Dieu nous le présente, parce qu'il a ses raisons. Et Dieu ne fait pas trop de tape à l'œil, mais il fait plus un travail de fond. Hein. C'est Samuel qui disait au roi Saül, il disait, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alors ici, Jésus arrive jusqu'à la ville. Verset 12 nous dit qu'il entra dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le ménage. Il chasse les vendeurs parce que ce qu'on avait fait, on avait développé un marché spécial où on disait aux gens, on disait, vous ne pouvez pas venir avec vos propres moutons parce qu'on ne sait pas s'ils sont purs. Donc, il faut que vous achetiez les moutons sur place. Parce que nous, là, ils sont garantis. Et bien sûr, le prix correspondait. Et il y avait un marché. Et puis après, il y avait le change de monnaie. Les gens arrivaient de partout. Hein, les juifs arrivaient de partout de la terre avec toutes sortes de monnaies. Et on aurait pu faire un change normal, comme on le fait de nos jours. Mais non, ils avaient une monnaie du temple. Et il fallait tout échanger dans la monnaie du temple. Et bien sûr, le change, il rapportait bien. Et donc, il y avait ce souk. Hein, j'aime bien ce mot français, le souk, parce que c'était vraiment du trafic. Mais du trafic reconnu par les religieux qui s'occupaient du temple. Et Jésus, il n'accepte pas cela. Parce que ce n'était pas comme ça que ça a été conçu. Et malheureusement, et c'est le cas souvent, c'est que les religieux, la religion, et même chrétienne, hein, on représente mal le Seigneur. Dieu dit, mais moi je ne me reconnais pas dans la manière dont on m'a présenté. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous. Hein, je dis même nous en tant qu'évangéliques, parce qu'avec les années, on commence à développer nos traditions aussi, même si elles étaient bien intentionnées, on doit s'arrêter et revoir et s'assurer qu'on tire notre impression de Jésus et de ce que Dieu veut, on tire directement de la parole de Dieu. Hein, c'est chacun doit s'assurer que ce qu'il voit et ce qu'il croit et ce qu'il pense correspond exactement à ce qui est écrit. Et donc on ne fait ni confiance aux pasteurs, ni aux théologiens, ni rien du tout. S'ils peuvent nous aider, tant mieux. Mais ce qui porte, c'est ce que je vois dans la parole de Dieu. Hein. C'est très important. C'est une pratique qui doit venir automatique. Quelqu'un vous parle de quelque chose de nouveau, il dit, ah bon ? Oui. Mais c'est où dans la Bible ? Alors, il faut qu'il puisse nous montrer. Et puis, pas n'importe comment, parce qu'il y en a qui savent manipuler la Bible aussi et nous faire voir ce qui n'est pas là. Hein? Donc, faisons attention. On n'a pas confiance dans l'être humain. On a confiance uniquement en Dieu. Donc, Jésus entre dans le temple et la première chose qu'il fait, c'est de chasser tout ce commerce qui se fait là-dedans. Et qu'est-ce qu'il dit, déclare ? Il dit, parce qu'il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et il cite Ésaïe 56, verset 7, qui dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et Ésaïe dit, pour tous les peuples. Et c'est important pour tous les peuples. Parce que le peuple juif avait développé cette idée que c'était eux le peuple de Dieu, il n'y avait que eux le peuple de Dieu, et le temple était uniquement pour eux. À tel point que dans le temple de Hérode, donc celui qui était à l'époque de Jésus, eh bien il y avait une cour pour les non-juifs qui adhéraient au judaïsme, mais qui n'étaient pas d'origine juive, il y avait une cour. Il y avait pour les femmes, et puis après il y avait les hommes juifs. Et eux, ils pouvaient s'approcher, c'était le plus proche. C'était des choses qui étaient acceptées à l'époque, mais ça n'était jamais dans la pensée de Dieu. Dieu ne fait pas une différence entre homme, femme, ou entre un peuple et un autre. Et c'est étonnant comment on peut faire ça et au nom de Dieu. Et Jésus, lui, il ne reconnaît pas tout cela. Il dit, ce temple, c'est la maison de Dieu, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire, c'est l'endroit où n'importe qui peut venir et s'adresser à Dieu et entrer en communion avec Dieu. C'était la prière, hein, vous pouvez aller chercher ça dans la prière de Salomon quand il a fait la dédicace du temple de Jérusalem. Dans sa prière, il a dit « Père, fais que n'importe qui, là où il se trouve, s'il se tourne vers ce lieu et t'invoque, eh bien tu répondras. » C'est la pensée de Dieu. Et nous ne devons pas faire autrement. Hein, je parlais avec quelqu'un sur Argenteuil cette semaine et qui lutte avec cette idée de le christianisme, il vient de l'Occident. Mais il ne vient pas de l'Occident, et c'est pas la religion des Blancs. C'est le Dieu de l'être humain. Hein, et c'est ainsi. Les hommes ont donné des idées, les hommes ont exploité, ils se sont servis de la religion pour faire justifier toutes sortes de choses. Je suis d'accord. Mais ce que Dieu a dit, c'est qu'il est le Dieu de tous les peuples et de tous les hommes. Et Jésus, encore une fois, il vient et dit, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, alors que c'est une maison où n'importe qui peut venir et retrouver son Dieu, son Créateur. Et donc, dans un sens ici, Jésus reprend possession de cette maison, la maison de son Père. Une question que je me suis posée en réfléchissant là sur ce passage, c'est quand même extraordinaire que Jésus, comme ça, il arrive et qu'il arrive à chasser tout le monde. Parce que imaginez, hein, essayez vous-même hein, d'aller au marché là de Fréjus et puis de chasser tout le monde. Vous risquez d'être chassé vous-même, encore et s'ils sont gentils avec vous. Comment est-ce que Jésus a pu vraiment, réellement chasser tout le monde? Sinon, il y avait dans son regard et dans sa parole une autorité qui venait pas du fait qu'il vienne de Nazareth, parce qu'il ne l'aurait pas eu. Mais ils ont dû sentir que lui, quand il parlait, il y avait une autorité. Sa parole était puissante. Il y avait quelque chose dans cette parole qui faisait qu'il fallait obéir. C'est vrai que Jésus pouvait dire à la mère, calme-toi, il pouvait dire à un démon, je sors de là. Et là, il a pu. Jésus leur a dit, écoutez, partez d'ici, et ils sont partis. Il y a aussi, j'ai pensé, peut-être qu'eux savaient au fond dans leur cœur, ils savaient peut-être que c'était pas quand même pas bien. Vous savez, quand on sait qu'on est dans le tort, on se laisse chasser un peu plus facilement que quand on sait qu'on est dans nos droits. Mais alors, s'ils savaient qu'ils étaient dans le tort, pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Hein, c'est quand même extraordinaire comment l'être humain peut, tout en sachant que ça ne correspond pas, mais il pratique quand même. Mais Jésus, finalement, il a fait le vide. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est le verset 14. Il dit, bon, après avoir chassé tous ces gens-là, qui est-ce qui vient vers lui? Ben, les aveugles et les boiteux. Ils s'approchent de lui. C'est pas flatteur, parce que à l'époque, les aveugles et les boiteux, c'était pas les plus belles gens. Hein, c'était pas ce qui était le plus présentable. Hein, c'était ces mendiants. Hein, ils étaient parce qu'ils pouvaient pas faire autrement à l'époque. Ils étaient les mendiants, habillés en mendiants. Et c'est eux qui viennent vers Jésus. Et il les reçoit. Hein, en fin de compte, c'est un fait. Littéralement, c'était les aveugles et les boiteux qui venaient vers Jésus et les guérissaient. Mais les vrais boiteux et aveugles spirituellement, c'était ces pharisiens et ces scribes. Ceux qui croyaient voir, c'était eux les vrais aveugles et les vrais boiteux, et eux ne venaient pas. Même dans Jean chapitre 9, Jésus, après avoir guéri l'aveugle né, alors les pharisiens viennent et Jésus leur dit, il dit, alors nous, est-ce que nous sommes aveugles? Il dit, si vous étiez aveugle, vous verriez. Mais parce que vous croyez voir, eh bien, vous ne voyez rien. Il a dit, c'est vous les vrais aveugles. Cet homme, il est né aveugle, mais il a vu la vérité. Et vous, parce que vous croyez voir, eh bien, en fait, vous ne voyez pas, vous ne reconnaissez pas qui je suis. Et nous devons faire très attention avec que notre éducation ne nous empêche pas de voir la vérité. Et quand je vois, il nous dit que les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui et il les reçoit. Ça me fait penser à cette parole que Jésus a, où il s'est écrit, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Jésus est celui qui reçoit, il nous reçoit dans l'état où nous sommes, il nous prend tel que nous sommes, il nous reçoit et il veut apporter la guérison, quelle que soit l'origine de notre état, et même si c'est notre faute. Pour l'état dans lequel nous sommes, ou bien nous sommes les victimes de quelque chose, ou nous avons subi des choses en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant que fille ou femme, en tant que peu importe ce qu'on a pu recevoir. Et tout cela, ça nous marque. Et combien il y a de gens dans notre société qui souffrent de choses qu'ils ont dû subir sans le vouloir. Mais nous pouvons venir à Jésus. Il nous reçoit. Même si la société nous rejette ou nous met dans la catégorie de malades et de ceci et cela, mais Jésus nous reçoit. Et Jésus, là, il chasse, il fait le vide dans le temple et puis après, il reçoit ceux qui sont fatigués, chargés. Et c'est là, il nous invite, c'est ce Jésus-là que nous voyons. C'est ce Jésus-là que nous voulons recevoir. Et alors, Jésus est là avec ses anciens boiteux, maintenant qui... Et vous savez, un boiteux qui boitait, on le voit dans Actes chapitre 5, quand Pierre guérit un boiteux, cet homme, il sautait, il criait, il était là. Alors vous imaginez, si Jésus a guéri plusieurs boiteux, là, s'il y avait ces gens qui sont contents. Ils n'avaient pas besoin de rééducation. Ah, oui. Et les aveugles qui voient, mais vous pouvez imaginer ce qu'ils étaient en train de raconter. Essayez d'imaginer cette scène de ces gens autour de Jésus et qui sont dans la joie. Et puis alors s'approchent ces pharisiens avec leur longue robe, le belle barbe bien peignée, leur turban et qui s'approchent de Jésus. Et au verset 15, il dit « Les principaux sacrificateurs, les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. » Il dit « Mais Jésus, tu te rends compte ce qui se passe ?» Il dit quoi ?« Ben regarde ces gens, comment ils se comportent. Ils sont dans un temple. » Il dit « Ils sont heureux, laisse-les. Ils sont contents, ils voient. Ils sont contents parce qu'ils marchent. Ça vous dérange ?» Il dit « Les enfants là qui crient. » Et alors ? Ben, ils font du bruit. Et alors, ils sont en train de louer Dieu. Il dit, vous n'avez pas lu dans la Bible ? Vous n'avez pas lu ? Bien sûr qu'ils ont lu. Où il dit, tu as tiré la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont là même. Il dit, quand les adultes n'osent plus, les enfants le font. Et Jésus dit, mais ça c'est normal. Ça, c'est l'activité de temple. C'est où on loue le Seigneur. On le remercie pour ce qu'il a fait. On le remercie pour être échangé. Il a dit, c'est ça que je veux voir dans ma maison. Ça, c'est normal. Mais eux, avec leur religion, ils ont fait quelque chose, on se croirait un cimetière. Ou dans un enterrement. Alors que Jésus, il dit, moi, c'est la joie. On est heureux. Et Jésus cite là, quand il parle des enfants qui louent le Seigneur, c'est tiré du psaume 8. Et alors, verset 17, c'est peut-être le verset le plus triste dans ce passage. Parce que Jésus, il a dit du temple, il a dit c'est la maison de mon Père. Mais il ne va pas pouvoir passer la nuit. Et je pense que dans tout son ministère, Jésus n'a passé aucune nuit à Jérusalem. Alors que c'était la ville sainte, la ville de Dieu, la ville de Dieu, tout ce qu'on veut. Mais il n'était pas... Il nous dit, il est sorti de là et il est allé passer la nuit dans un village aux environs. Pourquoi ? Ben, nous l'avons lu tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, quand on a lu Luc 19, il dit parce que les gens cherchaient à le mettre à mort. Les pharisiens, les scribes, tout cela, ils cherchaient à le mettre à mort. Mais Jésus est allé se cacher, se retirer, parce que d'abord, ce n'était pas le moment. Dieu avait prévu que Jésus meure, non pas avant la Pâque, ni après la Pâque, mais il était la Pâque. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les choses se feront non pas quand les pharisiens voudront le faire. Il y a un moment, ils veulent le tuer, ils n'arrivaient pas, donc ils ont commencé à se dire, bon, on le fera après la fête. Et finalement, les choses se sont passées quand Dieu a voulu, pendant la fête. Et c'est cette foule de Jérusalem, ces gens qui avaient dit, mais c'est qui ? C'est celui-là. Eh bien, c'est eux qui, une semaine plus tard, crieront, crucifie-le. Mais comme on l'a lu dans Luc 19, Jésus avait déjà pleuré sur Jérusalem. Il a dit, je sais que vous allez me rejeter. Et vous allez être détruits parce que vous allez me rejeter. Et vous lisez cette semaine, essayez de lire les passages dans les évangiles qui correspondent à la mort de Christ cette semaine, la semaine sainte, comme on dit, cette semaine triste, mais quand ils crieront et diront que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce qui se passera. Et depuis, c'est le peuple d'Israël mène la vie difficile. C'est pas recommandé de rejeter le Christ, surtout une fois qu'il s'est clairement présenté, qu'on a compris qui est le Christ. Il faut le recevoir. Et Jésus ici se présente encore une fois à Jérusalem, à Israël. Tous les signes sont là, c'est le Messie, c'est celui qui a été promis, c'est le Fils de Dieu. Il vient dans le temple de son Dieu, de son Père, mais on le rejette, on le chasse. Il ne peut même pas passer la nuit dans Jérusalem et il sera crucifié. La question, c'est ce qu'ils ont fait, c'est une chose, mais ce que Jean fait de Christ, c'est autre chose. Ça me regarde. Comment est-ce que je reçois Christ ? Qui est-il pour moi ? Et à cette époque de l'année, quand on pense à la Pâque, ne pensons pas aux lapins de chocolat et aux poules de chocolat et puis aux œufs et tout ça, mais pensons plutôt à qui est Christ et qui est-il pour moi ? Et en quoi est-ce qu'il change ma vie ? Et ce désir que nous avons de vivre pour lui. Recevons-le, mais le Christ tel que Dieu l'a présenté, hein, non pas le petit Jésus, ni le pauvre, comme disait un certain maghrébin quand il a vu le crucifix, il dit mais qu'est-ce qu'il a fait ce type-là pour être. Mais ce frère qui a dit ça. Il a dit, la première fois que j'ai vu un crucifix, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dû faire, ce type-là, pour subir ça ? Maintenant, il est enfant de Dieu et il remercie le Seigneur d'être mort pour lui. Hein, mais qui est Jésus ? Et qui est-il pour moi ? Un homme de Nazareth ? Ou est-il le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés ? Et pour me soulager de la condamnation qui repose sur les hommes et qui veut nous offrir la vie nouvelle, une autre vie. Le Jésus de la Bible, j'aime beaucoup. Le Dieu qu'on nous présente dans le monde, le Jésus qu'on nous présente dans le monde, je comprends beaucoup de gens. Si je ne savais que ce qu'ils savent, je comprends leur réaction. Je réagirais de la même manière. Mais maintenant que j'ai pu lire dans la parole et que j'ai pu voir le Dieu de la Bible, c'est exactement ce qui correspond au cœur de l'être humain. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de l'avoir conservée, parce que combien de fois les ennemis de ta personne ont voulu détruire ces textes mais nous te remercions pour ceux qui se sont sacrifiés pour les protéger, les garder, et que nous puissions les lire et les relire et savoir vraiment ce que tu penses, ce que tu désires de nous, et savoir que nous sommes aimés de toi. Père, en cette saison de Pâques, ce n'est pas juste un jour férié, ce n'est pas une fête du christianisme, mais c'est le Christ qui s'est donné pour nous, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Père, que ces réalités soient réaffirmées dans nos cœurs et que nous puissions non réagir comme ces scribes et ces pharisiens de Jérusalem, mais que nous puissions venir à toi comme ces boiteux et ces aveugles et qui ont été bien reçus. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.